Le journal est présenté par Sophie Delbon. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. 3 cas de coronavirus confirmés en France, 3 cas de contamination, 1 à Bordeaux et 2 à Paris selon le ministère de la Santé. Les 3 patients sont hospitalisés, tous avaient séjourné en Chine. Précision dans un instant. Alors qu'en Chine, la zone de quarantaine concerne maintenant 56 millions de personnes. Une opération d'évacuation de ressortissants français serait en préparation sur place. Précision avec notre correspondante en Chine, Dominique André.
Le Conseil d'État, très sceptique dans son avis sur la réforme des retraites.
Les opposants à la réforme des retraites ont à nouveau manifesté hier un peu partout en France, pendant que le gouvernement adoptait un projet de loi en Conseil des ministres, dont le Conseil d'État n'a pas eu le temps de garantir au mieux la sécurité juridique, selon les termes de cet avis sévère. Décryptage à suivre.
Enfin, 4 représentants de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient sont portés disparus à Bagdad.
3 Français et 1 Irakien, ils n'ont pas donné signe de vie depuis lundi, et depuis, aucune revendication demande de rançon n'a été envoyée. Et puis votre invitée Caroline.
Retour à la case départ, c'est-à-dire votre premier titre, le coronavirus chinois qui s'étend. Notre invitée sera l'historien de la santé, spécialiste des épidémies, Patrick Zilberman.
3 cas de coronavirus chinois sont désormais avérés en France. Il s'agit des 3 premiers cas en Europe. C'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, hier soir. Solène Lehen, que sait-on de ces 3 patients ?
Pour le premier cas, il s'agit d'un Français habitant Bordeaux, un homme de 48 ans d'origine chinoise, rentré mercredi d'un voyage professionnel à Wuhan, le foyer de l'épidémie en Chine. À l'apparition des premiers symptômes, fièvre et toux, ce patient s'est rendu dans un centre de consultation de SOS Médecins. Immédiatement, il a été transféré par le SAMU au CHU de Bordeaux. Il est actuellement dans une chambre de l'hôpital et il va bien, selon Agnès Buzyn. Les 2 autres cas positifs concernent des patients pris en charge à Paris, l'un à l'hôpital Bichat. On sait que l'un d'entre eux rentraient également de Chine. Pour l'autre, le ministère de la Santé n'a pas donné de précision. Les autorités sanitaires prennent contact avec toutes les personnes qui ont croisé ces 3 patients depuis l'apparition de leurs symptômes. Il leur est demandé de rester chez elles, de limiter au maximum tout contact avec d'autres personnes, de surveiller leur température et d'appeler le 15 en cas de fièvre, problème respiratoire ou tout autre premier signe de la maladie.
Alors que l'épidémie de coronavirus a déjà tué 41 personnes en Chine et contaminé près de 1300 personnes selon les autorités chinoises, essentiellement dans la ville de Wuhan, Pékin annonce avoir encore élargi son cordon sanitaire pour confiner 56 millions de personnes. Alors que les autorités annoncent le déploiement de 450 médecins et personnels de santé de l'armée chinoise sur la zone pour tenter d'endiguer l'épidémie, la Chine impose des mesures nationales de quarantaine dans les transports et c'est dans ce contexte que le ministère français des Affaires étrangères a annoncé qu'il mettait en place avec les autorités locales des autobus pour que les Français puissent quitter Wuhan. L'opération est en train de se mettre en place. Correspondance de Dominique André.
Selon les chiffres qui circulent mais qui ne sont pas confirmés par la France, au moins 200 à 250 Français sont pris au piège à Wuhan. L'opération d'évacuation est en cours d'organisation avec l'aide des autorités chinoises locales. Les Français sont recensés, nous dit cet expatrié que nous avons joint par téléphone.
On a eu ces informations comme quoi on allait peut-être être évacué en bus vers une autre ville de Chine. Il faut donc s'inscrire et puis nommer les personnes qui sont susceptibles de partir. Ils sont en train de faire un peu l'état des lieux de tout ça. Et puis après, la décision sera d'être à Changsha, peut-être rester en quarantaine, je ne sais pas encore. Changsha, c'est à environ 2 à 3 heures de véhicule. Ça fait 300 km, je pense. Après, on aurait le choix, soit de rester à Changsha ou alors de partir là où on voulait. Hein. Donc beaucoup voudraient rentrer en France. Il y en a certains hier qui étaient assez nerveux de devoir rester ici à Wuhan. Je pense que dans la majorité, ceux qui avaient vraiment envie de partir vont être contents de partir.
Il faut rassurer nos familles, ajoute ce Français. Aucun d'entre nous n'est malade. Les Français de Wuhan communiquent avec le consulat général par WeChat, la messagerie chinoise, et ils ont un numéro de téléphone spécifique qui a été mis en place.
Et pour analyser les risques de cette épidémie, l'invité des matins du samedi, le professeur émérite d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique, Patrick Zilberman. Il répondra aux questions de Caroline Brouet juste après ce journal dans une dizaine de minutes.
En France, le Conseil d'État rend un avis sévère sur le projet de réforme des retraites présenté hier en Conseil des ministres.
Oui, le projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres et quelques heures plus tard, le Conseil d'État publiait un avis effectivement très réservé, pointant un financement lacunaire selon ses mots. Notamment, la plus haute juridiction administrative française estime en effet ne pas avoir eu le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de la réforme, Sarah Tucherer.
Précipitation, le mot ne figure pas dans l'avis du Conseil d'État, mais il résume assez bien les critiques émises à l'encontre du gouvernement. Saisi le 3 janvier dernier, le Conseil n'a eu que 3 semaines pour examiner les 2 projets de loi, organique et ordinaire, bientôt soumis au Parlement. Insuffisant, écrit-il, pour mener sa mission avec la sérénité et les délais de réflexion nécessaires. Malgré la volumineuse étude d'impact insérée en annexe du texte, le Conseil d'État juge aussi que les projections financières tenant compte des changements à venir reste lacunaire. Il regrette enfin le recours aux ordonnances sur des points structurants de la réforme. Du côté de l'exécutif, hier soir, on assurait ne pas être surpris par toutes ces réserves. L'avis ne dit pas que la réforme est mal écrite, il dit juste qu'on est allé vite. C'est vrai, on l'assume, affirmait ainsi un conseiller ministériel.
Sarah Tuchérer, dans la rue hier, 1 300 000 personnes ont manifesté selon la CGT, 249 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur contre la réforme des retraites. Après la présentation du projet en Conseil des ministres, le projet de loi doit être débattu à l'Assemblée nationale à partir du 17 février prochain. Mais pour ses opposants, la bataille n'est pas terminée. Une nouvelle journée d'action interprofessionnelle est prévue mercredi prochain. Et pour Christine, enseignante dans le cortège parisien hier, rien n'est encore définitif. Elle donne rendez-vous notamment au municipal.
Non, bien sûr, une loi qui passe, elle peut être défaite. Pour l'instant, c'est encore pas passé au Parlement. Je vous rappelle que le CPE, même un décret à l'éducation nationale, là, le décret d'Arcos qui était passé, on l'a défait. Une loi, ça se fait, mais ça peut se défaire. C'est pas du tout un baroud d'honneur, hein. Ça, je peux vous dire qu'on va continuer avec plein d'actions différentes en février, en mars, en avril, jusqu'au retrait. Et aussi, il y a les élections, ce qu'on va faire donc au municipal, hein, évidemment, ça va compter. Et je vais vous dire une chose, je pense qu'Emmanuel Macron, il a perdu les élections présidentielles parce que le seul candidat ou une candidate qui dira « nous, on revient à la réforme et on va travailler avec les syndicats pour l'améliorer », il gagne les élections.
Et propos par Alexis Morel. Alors qu'hier, donc à propos de futures élections, justement, il y a la circulaire Castaner qui demande au préfet de ne plus attribuer de nuances politiques aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Et bien, cette circulaire a été fustigée dans une tribune publiée dans le journal Le Monde par des politologues et des enseignants-chercheurs en sciences politiques. Il demande au ministre de l'Intérieur de retirer son projet ou de le réviser. Il en voit d'une transparence démocratique et d'un devoir d'information, selon Martial Foucault, professeur à Sciences Po.
On peut effectivement interpréter cette circulaire comme la volonté de vouloir masquer la réalité des résultats électoraux. C'est-à-dire que effectivement, et on le voit dans certains éléments de cette circulaire, où il est donné instruction au préfet de considérer que toutes les listes qui auraient le soutien de La République En Marche seront comptabilisées dans l'escarcelle, dans la gamelle de La République En Marche. Ce qui est pour nous très contestable. Et puis, il y a un deuxième point plus fondamental. Est-ce que c'est un calcul ou un petit arrangement avec la démocratie? À partir du moment où on va avoir simplement les communes de plus de 9000 habitants, si on s'en tient au scrutin de 2017 et 2019, il est aisé de vérifier que c'est précisément là où, à la fois Emmanuel Macron ou la liste de Nathalie Loiseau pour La République En Marche et le MoDem, ont fait les meilleurs scores. Donc si vous voulez, on va essayer un petit peu de tordre la réalité de ce que serait réellement la carte politique au lendemain des municipales, là où précisément où La République En Marche manifeste un certain nombre de difficultés pour s'ancrer dans ce territoire.
Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, répondait à Pierre Neveu.
France Culture, 8h09, suite du journal. Depuis l'attaque de la préfecture de police de Paris qui avait fait 4 morts le 3 octobre dernier, une dizaine de policiers ont été suspendus à titre provisoire, d'autres ont été désarmés.
Essentiellement des policiers de confession musulmane. Et certains policiers ne cachent plus en effet leur malaise et se disent aujourd'hui stigmatisés à cause de leur religion. À Paris, le cas de l'un d'entre eux est particulièrement révélateur, Élodie Guéguin.
Il s'agit d'un officier de 39 ans qui a été suspendu sur décision de Christophe Castaner. Ce chef de groupe, musulman, pratiquant, est chargé de suivre les personnes condamnées pour des faits de terrorisme.
Et c'est un problème ?
Eh bien, pour certains policiers parisiens, apparemment oui. En 2012, déjà, sa pratique religieuse est mise en cause. La police des polices est saisie et elle classe l'affaire. Mais après la tuerie à la préfecture, le soupçon ressurgit. Un policier vient dire que ce gradé ne fait pas la bise aux femmes. Un autre prétend même qu'il prie dans son bureau.
Alors ça, ce sont des déclarations, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces déclarations sont vraies?
Eh bien, apparemment non, puisque nous avons eu entre les mains sept attestations sur l'honneur de ses collègues, surtout des femmes, qui assurent que le capitaine les embrasse, qu'il ne parle jamais de religion au travail. Même son chef de brigade évoque l'absence de signes de radicalisation dans une lettre au préfet datée du 7 octobre, dont voici un extrait.
Monsieur adopte une conduite religieuse en accord avec sa personnalité et sa manière de servir, c'est-à-dire assez rigide et sans concession, sans pour autant trahir un quelconque extrémisme ou une radicalisation en cours. Aucun des témoignages recueillis ne fait état d'une potentielle dangerosité.
Oui, malgré tous ces témoignages, une semaine seulement après l'attaque à la préfecture, ce chef de groupe est désarmé devant ses collègues, puis suspendu sans même attendre les conclusions de l'enquête administrative qui avait été lancée par ailleurs.
Et l'histoire ne s'arrête pas là, Élodie.
Non, ce policier, il conteste sa suspension devant le tribunal administratif lors de l'audience à laquelle nous avons assisté. La juriste du ministère est allée jusqu'à comparer ce chef de groupe à l'assassin de la préfecture, Michael Harpon. Nous avons retranscrit sa plaidoirie, dont voici un extrait.
En octobre 2019, il y a eu cet attentat à la préfecture, commis par une personne qui, finalement, avait à peu près le même profil que monsieur. On ne va pas attendre que, pendant l'enquête, il continue à être armé et qu'on se réveille au bout d'un matin en se disant « Ah ben c'est trop tard, il est passé à l'acte !»
Oui, une comparaison vraiment douteuse, hein, selon l'avocat de ce capitaine, Anas Kafif, qui lui parle de discrimination.
Élodie Guéin du service investigation de Radio France répondait à Benoît Bouscarel. L'association française SOS Chrétiens d'Orient est sans nouvelles de quatre de ses collaborateurs en Irak. Trois Français et leur accompagnateur irakien sont portés disparus, explique l'association. Les circonstances de cette disparition restent floues à l'heure actuelle. Seule certitude, l'enlèvement présumé s'est passé à Bagdad lundi après-midi. L'alerte a été donnée mardi, Nathanaël Charbonnier.
Les quatre humanitaires ont disparu lundi alors qu'ils étaient à bord d'une voiture. Les faits se sont produits pas très loin de l'ambassade de France à Bagdad, pas très loin de l'hôtel où ils séjournaient, un hôtel qui reçoit habituellement des délégations étrangères. Il s'agit de trois Français et d'un ressortissant irakien. Ils étaient en bonne santé et sont habitués à travailler dans des conditions difficiles. Ils étaient en règle administrativement et devaient aller faire des papiers pour permettre à l'association de travailler en Irak. Ils devaient également visiter l'école reconstruite par l'association SOS Chrétiens d'Orient à Bagdad. C'est à partir de mardi que l'inquiétude est montée. Jusque-là, les responsables des Chrétiens d'Orient attendaient des nouvelles. Ils savent que les communications avec l'Irak ne sont pas toujours faciles. Mais comme le silence a persisté toute la journée de mardi, les responsables ont décidé de donner l'alerte. Et depuis, plus rien, pas de nouvelles, pas de demande de rançon non plus. L'affaire est suivie directement par les autorités françaises et irakiennes.
Nathanaël Charbonnier. En Bolivie, la présidente par intérim, Jeanine Agnès, annonce ce matin sa candidature à la présidentielle du 3 mai prochain. Un scrutin organisé après la démission en novembre de l'ex-président Evo Morales. En Italie, on vote demain en Calabre et en Émilie-Romagne. Les sardines vont-elles permettre à la gauche de garder l'Émilie-Romagne? C'est l'un des enjeux de ces élections régionales cruciales pour le pouvoir en place et dont la droite de Matteo Salvini a fait pour lui un enjeu national. Alors gauche et droite sont-elles données à égalité dans les sondages? C'est le cas aujourd'hui. Les sardines, ce mouvement antifasciste né précisément à Bologne, pourrait-il faire basculer le scrutin? C'est le reportage de Bruce de Galzin.
Nous sommes dans l'atelier de fabrication des sardines qui ont fleuri sur toutes les places d'Italie. Mamadou Camara est ivoirien, couturier. Il a fondé cette association il y a 3 ans avec des Italiens. Depuis 2 mois, depuis que les sardines existent, Mamadou se sent mieux dans sa ville.
Ça a beaucoup changé, rapport entre les Bolognaises et les Africains. Parce qu'avant, quand ils rentrent dans le bus, ils voyaient, ça faisait un peu peur, mais actuellement, tout le monde ensemble. Vraiment.
Mamadou veut croire que la région restera à gauche, tout comme Eduardo Caroli, 26 ans, porte-parole des sardines.
Le 13 novembre, la veille du premier rendez-vous des sardines à Bologne, la région était entre guillemets condamnée et basculée à droite. Et c'est grâce aux sardines qu'on s'est regardé en face et qu'on s'est dit, si nous ne faisons faisons rien, personne ne fera rien à notre place. Maintenant, le plus grand objectif des Sardines, c'est qu'il y ait une forte participation aux élections.
Sauf que Riccardo Brizzi de l'Université de Bologne ne croit pas à un vote massif des Sardines.
Ce qui est à évaluer, c'est son poids électoral, ce qui est beaucoup plus discutable. Il y a une ancienne expression en Italie qu'on dit « si les places sont pleines, les urnes risquent d'être vides ».
Et même si les Sardines votent plutôt à gauche, elles n'ont pas toutes la même sensibilité politique.
En France, la météo marquée par des nappes de brouillard ce matin sur les deux tiers nord du pays. Quelques averses sur la pointe bretonne et la vallée du Rhône. Les températures moyennes sont comprises entre moins 1 et 12 degrés, avec moins 1 degré à Chambéry, 1 degré à Strasbourg, Paris et Lyon, 5 à Clermont-Ferrand, 7 à Biarritz et jusqu'à 11 degrés à Nice.